Anna Cabana, bonsoir.
Bonsoir.
Alain Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Après les désistements des candidats macronistes ou de gauche, on voit qu'un front républicain s'est constitué. Peut-être qu'il va empêcher Jordan Bardella d'arriver à Matignon le second tour. Je voudrais, avant qu'on en débatte, qu'on écoute le candidat à Matignon, Jordan Bardella. Il reste sûr de lui.
J'entends être le Premier ministre de tous les Français, à l'écoute de chacune et de chacun, respectueux des oppositions, ouvert au dialogue et soucieux à chaque instant de l'unité de la nation. J'entends être le Premier ministre du quotidien, celui qui placera dans ses grandes priorités la défense du pouvoir d'achat, le rétablissement de l'ordre et de la sécurité partout sur le territoire et bien sûr la reprise en main de notre politique migratoire. J'entends être un Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du Président de la République, mais intransigeant sur la politique que nous mettrons en œuvre au service de la France et au service des Français.
Avec les désistements, est-ce que le Rassemblement national peut perdre dimanche ?
Écoutez, jusqu'au dernier moment, il ne faut pas voter à la place des Français. Hein. C'est le vote des Français dimanche qui nous donnera la réponse. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, bizarrement, de façon spectaculaire, en tout cas de façon complètement inédite hein, dans l'histoire, le climat a incroyablement changé en 3 jours. Dimanche soir, c'est incontestablement le Rassemblement national qui a gagné le premier tour. C'est lui qui l'a gagné. Il est arrivé en tête et tout le monde reconnaissait qu'il avait la dynamique pour lui. D'ailleurs, Bardella composait déjà son gouvernement. On est 3 jours après. Il y a un fonds républicain qui s'est totalement improvisé. Tout le monde l'a vu, il y a eu une mécanique de retrait, de désistement, d'appel au vote. Improbable, hein ? Il y a une semaine, c'était complètement improbable. Entre des gens qui, quand même, se sont combattus férocement pendant, 2 ans. Les insoumis par rapport aux macronistes, la gauche classique par rapport à Gabriel Attal et avant à Elisabeth Borne, ce n'était pas de la plaisanterie. Mais il n'empêche que arithmétiquement, ça change tout et que le sentiment qu'on a, c'est que cette fois-ci, la dynamique qui était en faveur du Rassemblement national au premier tour, maintenant, elle est du côté de ce front républicain improvisé.
Clairement, ce Front républicain, c'est l'événement politique hein, de cet entre-deux-tours. Et c'est vrai que c'est un événement politique inouï et inattendu, que des anticorps existent, voilà, qu'ils existent encore, qu'il y a encore, une vigueur des anticorps contre le Rassemblement national en France. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, il faut pas se réjouir trop vite, parce que si vous voulez,
je ne me suis pas réjoui.
Mais je voyais dans vos yeux, Alain Duhamel, je voyais quand même un peu de réjouissance.
Attendez, je ne me réjouis pas du tout. Je suis époustouflé par un changement total de climat en 3 jours.
Non mais
c'est quelque chose. J'ai quand même un certain nombre d'élections derrière moi. Je n'ai jamais vu un renversement de climat en 3 jours.
Le paradigme politique a changé, ça c'est vrai.
Non, mais en même temps, il se passe. C'est plus que changé.
Il s'est inversé. Pour l'instant, on ne voit pas arriver de deuxième souffle du côté du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'à part les attaques de Marine Le Pen contre le coup d'État administratif d'Emmanuel Macron, ce qui prend pour l'instant pas du tout.
Qui est une gaffe.
Qui est en effet une gaffe et qui est une façon d'essayer d'agiter des moulinets et de mettre un peu de tension et de rapport de force dans la campagne. Pareil, les déclarations de Jordan Bardella dans le Figaro avec les mains dans les poches. Alors, je trouve que là aussi, il y a même une posture, même physique, qui n'est pas trouvée, c'est-à-dire pour ce second souffle. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la question des tambouilles politiques, des magouilles parisiennes, des façons de déposséder les électeurs de leur voix, de mépriser les 11 millions d'électeurs qui ont voté au premier tour pour le Rassemblement national. J'emploie les mots du Rassemblement national à dessein.
Oui, c'est-à-dire
que toute cette rhétorique, en effet, non, c'est évidemment pas ni la vôtre, ni la mienne, mais toute cette rhétorique, rhétorique du Rassemblement national, elle peut avoir une efficacité dans la mesure où même quelqu'un comme Jean-Baptiste Moreau, qui est un macroniste, qui était candidat, enfin qui était un ancien député macroniste, qui a été candidat, qui a été battu, qui continue d'être en lien avec Emmanuel Macron, qui ne peut pas être suspect au fond de soutenir le Rassemblement national et qui dit, eh ben faut faire attention, parce que il dit les électeurs vont voter massivement RN pour se rebeller contre le diktat de Paris.
Non, alors
c'est vrai que pendant trois jours on n'a pas parlé programme, on a parlé que de tambouille, de désistement, de nini, de panini.
Je pense que c'est une façon de présenter les choses extrêmement réductrice. Je suis persuadé que l'électorat du Rassemblement national, il n'y a aucune raison de dire qu'en l'occurrence il est méprisé. On a le droit de combattre le Rassemblement national sans mépriser ceux qui votent pour eux. On peut dire d'ailleurs la même chose de n'importe quel parti. On peut combattre un parti politique sans mépriser ceux qui votent pour lui. Mais je suis persuadé d'une chose, c'est que chez les électeurs du Rassemblement national, d'une part, ils ont toujours aussi envie de gagner, d'autre part, ils sont toujours aussi investis derrière leur parti et ils pensent toujours de la même manière que c'est jouable et que leur engagement reste absolument identique. Bon, maintenant, leurs adversaires ont quand même le droit de faire tout ce qu'ils peuvent pour les battre. C'est quand même le béaba de la politique, d'autant plus...
Mais est-ce que cette rediabolisation ne va pas quand même rendre encore plus en colère cet électorat qu'il est déjà?
Ah, mais je pense que... il sera en colère s'il est battu. L'électorat du Rassemblement national sera en colère s'il est battu. S'il n'est pas battu, il ne sera pas en colère. Non, mais... Je pense qu'il exultera, au contraire. Bon, mais s'il est battu, il sera terriblement frustré et ça ne sera pas facile à gérer pour la suite. Et le gouvernement, on va peut-être en parler, mais le gouvernement qui est à imaginer, avec une majorité qui est à imaginer elle aussi, ce gouvernement-là, évidemment, ça sera très difficile pour lui à la fois de ne pas repousser l'électorat du Rassemblement national et en même temps de se mettre d'accord entre eux, puisqu'on voit très bien que tous ceux qui se sont ligués contre le Rassemblement national l'ont fait au nom de leurs valeurs démocratiques communes, mais malgré leurs oppositions idéologiques et politiques gigantesques.
Alors, il y a un premier sondage qui est publié ce soir, c'est le sondage Harris Interactive, premier sondage après les désistements, après les dépôts de candidature, donc avec les vrais candidats du second tour. Et regardez ce que cela donne en projection en siège, en étant bien sûr prudent sur les projections en siège, mais néanmoins, le fait majeur, c'est que la majorité absolue s'éloigne très nettement pour le Rassemblement national et ses alliés, notamment Éric Ciotti, 190 à 220 sièges. Oui. Je rappelle que la majorité absolue est à 289.
À prendre avec précaution. Quand.
Bien entendu, mais c'est intéressant.
Bien sûr.
Et puis d'autres sondages vont arriver, notamment notre sondage Elab demain, et on verra si cela confirme cette tendance. Donc, plus de majorité absolue pour le Rassemblement national, donc une chambre ingouvernable, puisque, a priori, Jordan Bardella a dit qu'il n'irait pas à Matignon s'il n'a pas de majorité absolue.
Vous avez vu qu'il a été un petit peu moins catégorique dans les dernières déclarations, c'est-à-dire que c'était avant le premier
190
tour. On a senti que il y avait quand même quelques éléments de langage qui avaient bougé.
D'accord, enfin, 190 sièges, on est très très loin de la majorité absolue.
On est dans une projection très très basse.
Je dis ingouvernable parce que aucune autre majorité précise se dégage, à moins d'additionner le nouveau Front Populaire et par exemple Ensemble. Mais Emmanuel Macron a d'ores et déjà dit qu'il était hors de question de gouverner avec les Insoumis.
Il a exclu les Insoumis. De gouverner avec la France Insoumise.
Oui. Ben, c'est ce que j'ai dit.
Non, mais c'est pas à vous que je réponds. par principe, il y a deux choses. Il y a d'une part un accord électoral pour le deuxième tour. Accord électoral dans lequel il est exact qu'il est recommandé à des électeurs macroniens du premier tour de voter pour des candidats de gauche s'il y a eu désistement, comme ça a été le cas dans les deux sens et de façon très générale, et de voter vraiment comme ça. En revanche, il n'y a pas l'ombre du commencement d'une coalition gouvernementale entre les insoumis et les macronistes, pour une raison très simple, c'est qu'aucun des deux n'en veut. Depuis le départ, enfin, quand on dit depuis le départ, il faut se rendre compte que c'est quand même depuis moins de trois jours. Mais depuis les trois derniers jours, immédiatement, les insoumis ont dit « pas question de coalition gouvernementale ». Donc, il n'est pas question qu'il soit dans un gouvernement qui serait soutenu par des macronistes. Et inversement, les macronistes, et Emmanuel Macron l'a dit lui-même, puisque ça a été rapporté directement par son porte-parole, etc., sa porte-parole, lui-même a dit qu'il n'était pas question de gouverner avec les insoumis. Les insoumis ne veulent pas gouverner avec lui, et lui ne veut pas gouverner avec eux. Donc, la question, en réalité, qui est une question terriblement complexe, c'est de savoir comment constituer une majorité relative partant, disons, du Parti communiste
jusqu'au LR.
Mais non, les LR ont dit qu'ils ne voulaient pas
Non, mais sauf qu'on va y quand même essayer de...
Si, c'est possible, mais c'est une majorité relative.
Donc c'est comme maintenant.
Mais non, mais c'est extraordinairement difficile.
Pire que
ce dont on sort, pour une raison très simple, c'est que le programme, pour le coup commun de l'ensemble de la gauche, est aux antipodes de ce qu'on fait, de ce qu'ont envie de faire
tout à l'heure,
les macronistes. Donc ça veut dire, d'un mot, ça veut dire qu'en l'occurrence, s'il y a un gouvernement comme ça, ça ne peut être un gouvernement que minimaliste, que provisoire, et que sur des objectifs incroyablement modestes, puisqu'il n'est pas question ni que la gauche, ni que les macronistes renoncent à leurs objectifs qui sont contradictoires.
C'est même encore pire que ce que vous dites.
Un sénateur socialiste, je voulais le citer, parce qu'il était tout à l'heure sur le plateau de BFM TV, le sénateur socialiste qui disait on ne cédera pas sur le SMIC à 1600 euros, on ne cédera pas sur les dépenses qu'on a prévues dans ce programme pour relancer la consommation, et on ne cédera pas non plus sur l'abrogation de la réforme des retraites. Donc c'est compliqué.
Non, mais de toute façon, les macronistes, quand Alain, vous dites les macronistes, mais il n'y a plus de macronistes,
apparemment, il y en a plus que ce qu'on disait.
Emmanuel Macron, je peux vous dire, c'est que les uns et les autres, y compris dans son gouvernement, ce qui nous rapporte les propos du président de la République en ce moment, il nous explique qu'au fond, Emmanuel Macron ne tient plus rien. C'est-à-dire qu'il y a une dévitalisation politique personne et de la parole d'Emmanuel Macron et de la volonté politique d'Emmanuel Macron. Pour le dire autrement, chacun rejoint, si vous voulez, son camp de départ. C'est-à-dire que vous avez les macronistes venant de la droite qui commencent à se faire des œillades. Vous avez vu Jean-François Copé qui fait des œillades à Bruno Le Maire et lequel fait des œillades à Édouard Philippe. Et vous avez... Les camps se reforment et ils sont vraiment bien sortis, si vous voulez, du sillon macroniste.
Je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses.
Vous ne voyez pas cette rébellion et cette émancipation
attendez,
de tout le monde.
J'espère être capable de dire moi-même ce que je pense, mais si je n'y arrive pas, vous m'aiderez.
Vous pouvez compter sur moi, Alain.
Bon. Que la majorité sortante macroniste n'existe plus, c'est une évidence. Que Emmanuel Macron soit très affaibli politiquement et qu'il soit affaibli dans l'esprit de ses propres troupes, de ses propres ministres, etc., c'est une évidence aussi. Mais le macronisme, c'est-à-dire le groupe à l'Assemblée, qu'on disait en train de se disloquer et de devenir marginal, s'il a une centaine ou...
On va remettre, s'il vous plaît, le tableau.
S'il a une centaine ou 120 sièges, par exemple, puisque c'est ça qui est à peu près à la 110 moyenne...
110 à 135
oui,
sièges.
Oui, je vous dis une 120, c'est à mi-chemin. S'il a ça, aucune majorité gouvernementale ne pourra se faire pendant un an sans son appui. Et par la force des choses...
Le troisième devient faisant
voilà,
de roi.
Et par la force des choses, même si il y a évidemment des ambitions personnelles présidentielles qui vont se développer, même si il n'y aura plus l'ombre d'Emmanuel Macron qui planera sur eux, il n'empêche qu'ils deviendront la force d'appoint totalement nécessaire et que par la force des choses, ils retrouveront des intérêts communs, pas au service d'Emmanuel Macron, mais au service de leur propre survie.
Un dernier mot, Anna.
Mais oui, non, mais c'est-à-dire que Emmanuel Macron, pour le coup, n'aura plus de poids politique. C'est-à-dire que,
il aura un poids institutionnel.
Oui, mais le fait d'être en plus dans une forme de cohabitation inédite avec une impossibilité pour lui d'être candidat à sa succession. Mais ça démonétise encore plus. Mais bien sûr, Alain. Sauf que là, tout a changé. C'est-à-dire que le caractère inédit de la situation rend cette impossibilité encore plus problématique pour lui en matière de vitalité politique.
Non, mais il n'y a pas d'impossibilité pour lui dans la mesure où il ne peut pas être candidat.
Mais c'est ce que je vous dis. Ce qu'il commandera aux uns et aux autres ne vaudra
que je veux dire clairement, mais non, c'est pas lui qui commandera.
Mais justement, il ne pourra plus rien commander.
Vous confondez deux choses.
Dites-moi tout.
Oh non, c'est assez simple d'ailleurs, vous le savez autant que moi. sur le plan politique. Son poids vient de s'effondrer, et globalement, et vis-à-vis de ses propres troupes. Sur le plan institutionnel, comme il y aura de toute façon une cohabitation, il conserve un certain nombre de pouvoirs qui, sous la Ve République, ne sont pas secondaires.
Avant de nous séparer, je voudrais qu'on évoque la disparition d'une figure de la vie politique française, un fidèle parmi les fidèles de François Mitterrand, je veux parler de Roland Dumas, qui vient de nous quitter à l'âge de 101 ans. Roland Dumas, il a été ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, il a été aussi président du Conseil constitutionnel, et Alain Duhamel, vous l'avez bien connu.
Oui, c'est un homme très intelligent, très séduisant, pas très moral, disons les choses, qui s'est très bien comporté pendant la guerre, qui est un ami intime de François Mitterrand.
Ça a été son avocat aussi.
Oui, un des trois ou quatre en qui il avait le plus confiance. Et qui, comme ministre des Affaires étrangères, a été réellement un émissaire efficace, mais un émissaire seulement. Il n'a jamais élaboré une politique étrangère. Il l'a mise en œuvre. Pour le reste, ça a été un président du Conseil constitutionnel qu'on peut dire contestable, le seul dont on peut vraiment dire ça, hein, dans l'histoire de la Ve République. Et ça a été un avocat célèbre et heureux de vivre et de ce que ça pouvait lui rapporter, mais qui choisissait ses causes. On peut se dire, c'est un homme brillant et à sa manière, un homme marquant, pas de premier plan, mais un homme marquant. C'est aussi quelqu'un dont on ne peut pas faire un exemple en matière de morale.
Un personnage de roman.
Tout à fait. Un vrai personnage de roman. D'ailleurs, sa vie est un roman pour le bien de certains et au détriment d'autres.
Merci Alain Duhamel, merci Anna Kavanagh.